Nous voulons ouvrir ensemble la bonne parole de notre Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 3, nous allons parler de quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup en général, mais dont il faut parler quand même, c'est la crainte. On va parler un petit peu de la crainte ce soir. Alors, est-ce que vous êtes dans la crainte ce soir? Ah, tout dépend. Hein. Alors, c'est la bonne réponse, c'est tout dépend, c'est vrai, hein? Alors, si vous n'êtes pas dans la crainte, vous pouvez avoir raison. Si vous êtes dans la crainte, vous avez raison aussi. Hein. Donc, c'est vrai que quand on a accepté Jésus, alors il y a des craintes dans notre vie qui disparaissent. Hein. Vous avez la crainte de la mort déjà, parce que l'apôtre a poussé ce cri de victoire lorsque Jésus est mort et ressuscité. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? On a parlé un petit peu dimanche dernier, hein, donc, la crainte de la maladie, de la perdition, pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Avec le Seigneur, nous avons une solution, nous avons un secours. Si nous n'avons pas le Seigneur, vous savez, ben on se débrouille avec les moyens qu'on a, hein, débrouille avec les moyens du bord, et c'est pas toujours terrible, hein. Mais avec le Seigneur, on a vraiment une solution, on a un secours. La crainte du lendemain aussi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il va envoyer un ange de 14e classe pour s'occuper de vous. Non, qu'est-ce qui est marqué? Lui-même s'occupe, hein? Lui-même va prendre soin de vous. Alléluia! Merci Seigneur, béni soit Dieu. C'est vrai que c'est quelque chose de glorieux. Vous savez, il y a eu un serviteur de Dieu qui a été un précurseur pour délier les gens des choses occultes et des démons. Il s'appelait Christoph Blumhardt. C'était un Allemand, et donc c'était un pasteur, et il a fait des expériences, il ne connaissait rien donc à ces choses-là, et il s'est retrouvé avec des gens qui étaient possédés par de nombreux démons, en particulier une femme qui s'appelait Gottliebin Dittus, donc et il a commencé avec la parole de Dieu, et puis aussi du bon sens et de la sagesse, heureusement, hein. Il a commencé à chasser les démons et à délier donc en particulier déjà cette femme-là, et puis sa propre épouse, elle était toujours émerveillée, elle disait, mais écoute, tu vas prier pour des gens qui ont vraiment des problèmes énormes, hein, et puis tu arrives à la maison le soir, tu poses ta tête sur l'oreiller et tu t'endors directement. Il disait, mais comment tu fais ça? C'est quoi ton secret? Voilà ce qu'il lui a répondu. Dieu est-il si impuissant que mon inquiétude contribuerait au bien-être de notre Église? Et puis il a ajouté, il y a un moment, chaque jour, où nous devons simplement nous décharger de notre fardeau et le confier à Dieu. Voilà. Et c'est vrai. Et c'est vrai, hein, regardez, souvenez-vous, hein, donc un soir, Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée, rappelez-vous donc, fatigués après une longue journée de ministère, Jésus s'est endormi à la poupe de la barque, et soudain il y a un grand tourbillon qui s'est levé, et puis les pêcheurs devenus disciples étaient terrifiés, hein, mais Jésus continuait à dormir sereinement, hein, jusqu'à ce que les disciples apeurés le réveillent et disent, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions, hein. Et puis Jésus dormait là, mais il voulait leur enseigner cette leçon-là que nous avons aussi certainement tous les uns et les autres besoin d'avoir et de garder lorsque les inquiétudes commencent à nous ronger. Eh bien, abandonnez-les au Seigneur et ne les reprenons pas. Hein, ne les reprenons pas. C'est le secret de la sérénité de l'âme quand on est ballotté sur les flancs de la vie. Hein, parce que c'est sur les flots de la vie. Parce que quand on est chrétien, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas de problème. Hein, mais on a un secret pour avoir la paix et la sérénité dans notre cœur. Et ça, c'est primordial et fondamental. Amen. Amen. Voilà. Mais malgré tout, il faut reconnaître que certaines craintes restent dans la vie du chrétien, et c'est même normal tant que nous ne serons pas au ciel. Hein. Et l'apôtre Paul lui-même avait des craintes. Hein. On le voit bien. Lorsque vous lisez, par exemple, dans 1 Corinthiens 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grands tremblements. » Je ne pense pas que parmi nous, il y ait quelqu'un qui ait eu autant de bonnes raisons de craindre que l'apôtre Paul en avait, qu'il en a eu au cours de sa vie avec Dieu. Et spécialement, là, il parle du temps où il était avec les Corinthiens. Il était à Corinthe, donc. Et quelles étaient à ce moment-là les raisons de ses craintes? Eh bien, c'était des craintes qui étaient dues à sa situation, on le voit bien. Enfin, je ne vais pas lire les passages, mais nous le voyons dans Actes chapitre 18, ça nous est expliqué. Les Juifs avaient essayé plusieurs fois de le tuer, parce qu'ils ne supportaient pas son message. Et ils avaient fait de l'opposition, ils étaient livrés à des injures, hein, on le voit dans le verset 6, acte 18. En plus, la maison dans laquelle ils demeuraient était contiguë à la synagogue, donc ça veut dire qu'à tout instant, des gens remontés contre lui pouvaient sortir de la synagogue et venir dans la maison à côté essayer de lui faire un mauvais coup. Hein. C'était quand même pas facile. Hein. Il n'était pas chez lui, il pouvait être expulsé à tout instant. Hein. Et si on se trouve dans une situation difficile à cause du Seigneur, oui, parce qu'on l'a suivi, parce qu'on lui a obéi, alors, eh bien, voilà ce qui va se passer. Comme à Paul, le Seigneur nous parle. Il nous parle ce soir, il nous dit de ne pas craindre, parce qu'il va s'occuper de nous. Hein, donc, ce qui s'est passé, nous le voyons dans Actes 18, versets 9 et 10, là, le Seigneur s'est révélé à Paul et lui a dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Hein, parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville, voyez-vous. Et voilà, dans cette situation, vous voyez que le Seigneur l'a encouragé, l'a consolé, et c'est ce que le Seigneur fait aussi pour nous. Béni soit son nom. Amen. Et puis ensuite, une deuxième chose que nous voyons, que l'apôtre Paul connaissait comme crainte, c'était la crainte du Seigneur. Hein, c'est un petit peu différent. Hein, 2 Corinthiens 5, verset 11, il est écrit là, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Vous savez, Paul, s'il avait écouté simplement ses envies et ses désirs, ben, il se serait sauvé vite fait de Corinthe. Hein, il n'aurait pas, il a certainement pas envie de rester là. S'il écoutait sa nature propre, non. Tout ça, rien que pour être tranquille. Hein, ou au moins aller se mettre dans un quartier moins dangereux. Hein, donc, mais il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte du Seigneur, et à cause de ça, il ne le pouvait pas. Et je dirais que quelque part, ces deux craintes s'entrechoquaient dans son cœur, mais il savait une chose aussi, il savait qu'un jour il aura à comparaître devant le tribunal de Christ et qu'il aurait des comptes à rendre. Vous savez, un jour, nous aussi, chacun d'entre nous, nous aurons à comparaître devant ce tribunal pour y rendre compte. Et chacun recevra sa juste rétribution. Sur cette terre, vous savez, la justice est souvent bien imparfaite. Quand j'étais jeune, j'avais acheté une voiture d'occasion, une vieille voiture. J'avais acheté dans un garage. Certains ont connu les amis 6, je ne sais pas s'ils ont connu ça, c'est très vieux. Hein. Donc j'avais en acheté une. Et puis, le garagiste ne savait pas non plus, et moi non plus. C'était une voiture qui venait d'un militaire qui était dans les forces françaises en Allemagne à l'époque, avec les plaques bleues. Donc, il fallait un papier en plus, qui devait être fourni par l'armée. Le garagiste ne le savait pas, moi non plus. Alors, le temps que la démarche se fasse, j'avais toujours l'ancienne immatriculation, et puis il fallait bien que je roule, parce qu'il fallait bien que j'aille au travail. Ça fait que, voilà, je me suis fait contrôler une première fois, Strasbourg, voilà, défaut d'immatriculation, alors tout de suite, ça passe au tribunal, cette affaire-là. Hein. Donc, j'explique, voilà. C'est tout. Donc, et puis quelques semaines plus tard, je me suis fait contrôler, cette fois-ci à Saint-Malo, en Bretagne. Voilà. Et les deux affaires sont passées au tribunal en même temps. Dans une des deux, j'ai eu 50 francs à l'époque. 50 francs parce que le juge du tribunal a dit « Oui, je comprends le problème, etc. » Dans l'autre, j'ai pourtant envoyé une belle lettre d'explication, j'ai eu 300 francs pour la même affaire. Voyez-vous ? Bon, c'est tout. Hein, c'est plaie d'argent n'est pas mortelle, comme dit l'autre. Hein, mais quand même, ça nous montre combien dans des petites affaires et dans des plus grandes, combien la justice sur cette terre est quelque chose d'imparfait. Quelque chose d'imparfait, c'est une réalité. Mais vous savez, au tribunal de Christ, ah, là ce sera tout différent, hein, la justice sera parfaitement équitable. Hein. La justice, à ce moment-là, elle tiendra compte des circonstances de chacun dans son existence. Elle tiendra compte des occasions que chacun a eues d'accepter Jésus. Elle tiendra compte des occasions que chacun a eues de travailler pour le Seigneur. Elle tiendra compte des possibilités que chacun a eues. Elle sera parfaitement rendue, hein, et chacun recevra exactement ce qu'il mérite. Les uns recevront la perdition, les autres recevront le salut. Hein. Pour les uns, une grande récompense, pour les autres, une plus petite. Et puis certains n'auront pas de récompense, ils sont sauvés, comme dit l'Écriture, d'extrême justesse, hein, comme au travers du feu. Donc d'autres aussi, eh bien, ils auront la perdition. Même dans la perdition, ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Certains connaîtront la perdition et les marqués d'autres, l'obscurité des ténèbres, hein, ce sera plus profond, ce sera plus grave. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous pousser à avoir la crainte du Seigneur, à lui obéir, à faire sa volonté. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, mes amis, c'est le jugement dernier. Hein. Alors là, il y a des prophéties dans la Bible qui sont conditionnelles, mais alors celle-là, c'est sûr et certain qu'elle se produira. C'est sûr et certain. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on prenne bien garde, qu'on fasse vraiment attention de ce point de vue-là. Si je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, que nous avons lu tout à l'heure, lorsque l'apôtre disait « Moi-même, j'étais auprès de vous en état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Des craintes qui étaient dues à quoi ? Des craintes qui étaient dues, est-il dit aussi, à cause de la présence et de l'action de l'Esprit de Dieu. Hein, donc, on le voit très bien parce que lorsque vous lisez le verset suivant, donc, afin que votre foi soit fondée, verset 4, excusez-moi, je relis le verset 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il craignait, c'est pour ça qu'il tremblait. Hein, Paul, hein, oui, parce que il tremblait d'agir seulement par lui-même, d'agir par ses propres forces, hein, par sa propre sagesse, par ses propres idées, par ses propres capacités. Il tremblait d'éteindre le Saint-Esprit. Hein, il tremblait de l'attrister. Vous savez, le Saint-Esprit est facilement attristé. Hein, c'est facilement attristé. Hein, il suffit un peu d'orgueil. Il suffit un peu de jalousie, un peu de colère, que sais-je. Et c'est pour ça que les grands réveils qu'il a pu y avoir dans l'histoire de l'Église, vous apercevez que, hélas, trop souvent, ils se sont éteints rapidement. Hein. Ben ça, c'était la raison. Hein. C'était bien souvent la raison. Et Paul, il tremblait d'éteindre le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Hein. Alors, nous avons eu le privilège, pour certains d'entre nous, de voir le Saint-Esprit puissamment à l'œuvre, hein, et c'est un grand privilège, et c'est aussi une très grande responsabilité, mais nous avons vu le Saint-Esprit agir pour accompagner la parole prêchée, Dieu a été à l'œuvre, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut s'arrêter ? Est-ce qu'il faut se reposer ? Est-ce qu'il faut attendre les bras croisés que ça se fasse tout seul ? Hein, mais bien sûr que non. Hein. Ou bien est-ce qu'on va vouloir canaliser l'esprit pour qu'il agisse suivant notre propre façon de voir les choses ? Hein, vous savez, réjouissons-nous, mais soyons malgré tout dans la crainte. Louons le Seigneur, mais tremblons de mal agir. Travaillons pour Dieu, mais souvenons-nous de notre grande faiblesse, ayons à cœur de travailler avec Dieu, hein, d'être ouvrier avec Dieu, c'est lui le patron, hein, et c'est nous les ouvriers, béni soit Dieu, hein, et même si peut-être vous êtes là pour la première fois, une des premières fois, et si vous voulez que Dieu agisse pour vous, que Dieu réponde à vos besoins, à vos problèmes, qu'il réponde à vos prières, eh bien décidez-vous à avoir cette saine crainte de Dieu. Hein, ce sera pour vous quelque chose d'extrêmement bénéfique et salutaire. Et si vous avez à cœur d'agir de cette manière, eh bien, vous verrez la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie. Béni soit le Seigneur. Amen. Et puis, si je poursuis un peu toujours dans ces entretiens que Paul a avec les Corinthiens, cette fois-ci dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7, au verset 5, voilà ce qu'il dit. « Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, luttes au dehors, craintes au dedans. » Craintes au dedans. Pourquoi est-ce qu'il avait ces craintes, l'apôtre Paul ? Mais à cause de l'état des Corinthiens, hein. C'est ce qu'on voit dans le contexte, que je ne vous lis pas là, mais nous voyons quand même le détail de ces craintes. Par exemple, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, il dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est une crainte qu'il a, mais vous savez, c'est une crainte très actuelle, ça. C'est une crainte qu'on peut avoir avec les chrétiens. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous savez, l'évangile n'est pas compliqué. L'évangile est simple. La volonté de Dieu pour nos vies n'est pas compliquée, elle est simple. Hein, Dieu nous a fixé un grand ordre de mission, Et c'est à nous de l'accomplir. Ça, c'est simple. C'est des choses qui sont simples, hein. Voilà, mais vous savez, aujourd'hui, toutes sortes de... Mais on le voit, vous savez, encore plus avec Internet et tout ça, ben on voit que les gens, ben, ils vont chercher des complications, ils vont chercher des toutes sortes de choses surprenantes qui n'ont plus rien à voir avec l'Évangile. Hein, et c'est véritablement quelque chose de tout à fait attristant. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce qui existe. Hein. Nous rappelons simplement une chose. Celui qui reçoit Jésus comme son sauveur est sauvé. Alléluia. Celui qui le reçoit comme son Seigneur, il est béni. Alléluia. Hein? Celui qui ne le reçoit pas, ben, il est perdu. Et puis celui qui ne laisse pas diriger sa vie, ben, il rate la bénédiction de Dieu. Voilà, ce n'est pas des choses compliquées ça. Hein? C'est des choses qui sont simples, qui sont à notre portée de tous. Quoi de plus clair? Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Restons-en là, attachons-nous à la parole de Dieu et nous verrons que le Seigneur se glorifiera. Alléluia. Si l'Évangile était compliqué, ce ne serait pas juste parce que ça voudrait dire que les gens les plus simples ne pourraient pas y avoir accès. Donc ça veut dire que l'Évangile doit être simple et il est béni soit Dieu. Et puis, je continue maintenant, nous voyons que l'apôtre Paul disait encore, dans 2 Corinthiens 12, cette fois-ci au verset 20, « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. » Et là encore, pourquoi est-ce qu'ils le craignaient? Ben, ils le craignaient à cause de leur salut, à cause de leur bénédiction. Vous savez, il y a quelqu'un d'autre hein, dont l'arrivée est prochaine. Hein, quelqu'un d'autre, c'est qui? Ben c'est le Seigneur Jésus. Hein. Craignons de ne pas être trouvés à son retour comme nous devons être. Craignons cela. Hein. Et craignons aussi pour ceux qui nous entourent, que nous puissions être trouvés fidèles, que nous puissions être trouvés travaillant pour lui, de tout notre cœur, veillant dans la prière, dans l'action de grâce et dans l'amour. Hein. Nous puissions être trouvés ainsi. 2 Corinthiens 12, 20, il ajoute encore, « Je crains !» de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Eh oui, c'est des choses, hélas, qui peuvent se trouver dans les églises. Hein. Et hélas, hélas, on le voit. Hein. S'il le craint, il n'y a pas que les Corinthiens qui étaient... Mais en tout cas, ces choses-là, elles marquent un coup d'arrêt dans la vie et dans la bénédiction. Hein. Ça, c'est des choses extrêmement claires. Vous savez, quand on faisait les camps de jeunes... Il y avait un jeu qu'ils aimaient bien pratiquer, c'est le tir à la corde. Vous avez connu ça déjà, c'est deux équipes, hein, une de chaque côté, et puis on essaie d'avoir une belle mare de boue au milieu, hein, et puis on tend la corde comme ça, et puis bah, il s'agit de tirer l'autre équipe dans la mare de boue. Hein, donc c'est ça l'objectif. Mais moi je suis toujours intéressé de voir, on essaye d'avoir des équipes à peu près équilibrées quand même, hein, on essaie de faire des équipes à peu près équilibrées, c'est toujours une équipe qui est légèrement plus forte que l'autre, mais c'est pas forcément celle-là qui va gagner, je vais vous dire. Hein. Moi je suis toujours intéressé quand je leur dis, maintenant voilà, maintenant vous avez 10 minutes pour vous organiser. Et là j'aime bien regarder comment ils font, j'aime bien regarder quelle est l'équipe qui va réussir à s'arranger ensemble, les gens qui vont réussir à se coordonner, qui vont réussir à se mettre d'accord. Ou bien alors, vous avez l'autre équipe, des fois, hein, ça arrive, vous les voyez, vous avez peut-être les deux costauds de service qui sont là, dans cette équipe-là, mais chacun a son idée, voyez-vous, chacun veut faire les choses à sa façon. Et je m'aperçois que bien souvent, ce n'est pas l'équipe la plus costaud qui gagne, mais c'est l'équipe dans laquelle il y a la meilleure entente. C'est l'équipe dans laquelle les gens s'arrangent bien ensemble, dans laquelle les gens ont une coordination, ils arrivent à... Et c'est ceux-là qui gagnent souvent. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment comme ça, vous savez. Hein. Il ne s'agit pas de se tirer la corde les uns contre les autres dans l'Église, hein, ce n'est pas la question. Hein. On a un adversaire qui voudrait bien nous emmener dans la boue. Hein. Donc, celui-là, il ne faut pas qu'on se laisse faire par celui-là. Et, donc, et c'est pour cela, frères et sœurs, eh bien, béni soit le secours que notre Dieu veut encore nous donner. Ayons cette crainte et si nous voyons ces choses-là se produire, eh bien, il ne s'agit pas d'aller les colporter dans tous les coins, hein. Il s'agit déjà de les remettre au Seigneur, et puis il s'agit de prendre la disposition inverse, alléluia, avec le secours de Dieu. Et puis l'apôtre Paul encore nous dit, encore une crainte qu'il a, 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'est Spurgeon qui parlait justement d'un prédicateur qu'il connaissait, et il disait, voilà, ce garçon-là, il prêchait tellement bien que quand il était sur la chair, les gens auraient voulu qu'il ne descende jamais, mais quand il était descendu, il vivait tellement mal que personne ne voulait le laisser remonter en chair. Et vous ? Ça, c'est un vrai problème, hein, quand c'est comme cela. Hein. Et donc, quand il est question là, quand il dit, de peur d'être moi-même désapprouvé, on peut traduire aussi par éliminer, disqualifier. Oui, c'est vrai. Hein, donc, craignons d'être disqualifiés, craignons d'être éliminés après avoir prêché aux autres ou témoigné aux autres. Hein. Et comment est-ce qu'on est disqualifié ? Ben, il suffit de lire la suite des versets chapitre 10, versets 6 à 10. Il dit, voilà, ne devenez pas idolâtres, au verset 7. Ne vivez pas pour manger, boire et vous divertir. Ne vivez pas pour cela. Faut pas se livrer à la débauche. Faut pas tenter le Seigneur, est-il dit. Hein, ne pas lui désobéir consciemment. Comme il est dit au chapitre 10, au verset 9. Ne pas murmurer. Ne pas murmurer. Voilà. Et comment éviter cela ? Comment éviter cela ? Ben, cela, encore une fois, à chaque fois, il est bon de prendre vraiment le contre-pied. Hein. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Surmontez le mal par le bien. Hein. L'attitude inverse. Hein. Donc, l'attitude opposée. Et si nous avons cette crainte, le Seigneur va nous secourir dans la tentation. Alléluia. Le Seigneur est celui qui va nous donner la couronne incorruptible, béni soit son nom. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire pour chacune et pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il fortifie dans nos cœurs la crainte salutaire et qu'il nous donne cette pleine délivrance de toute crainte qui n'est pas selon sa volonté. Béni soit son nom. Amen. Amen. Alléluia.